10h23 minutes. Ben alors là, Yannick, on a tellement spéculé, c'est fini. C'est-à-dire que les équipes voyagent aujourd'hui et demain vont se rendre dans les villes bulles.
Oui.
C'est un, on ne connaissait pas ça, cette expression-là, il y a quelques mois à peine. Villes bulles.
On en a appris des choses à cause de cette COVID-19. Donc, les villes bulles qui sont mises sur pied par la Ligue nationale. Je vous rappelle que les équipes de l'Est s'en vont du côté de Toronto. Les équipes de l'Ouest s'en vont du côté d'Edmonton. Finale d'association et la Coupe Stanley qui seront disputées du côté d'Edmonton. Donc, le Canadien a participé hier à sa dernière séance d'entraînement du côté de Brossard et se dirige à Toronto aujourd'hui.
Et n'oubliez pas, Yannick, que les commentateurs et analystes, eux, se dirigent ici en studio.
Tout à fait.
Martin McGuire, bonjour.
Salut, Martin.
Bonjour.
Martin qui disait hier, ça fait longtemps que Danny et moi, on n'a pas fait des valises. Est-ce que t'as encore, il doit y avoir une couche de poussière sur tes valises?
Ah, écoute, de temps en temps, je vais la dépoussiérer, je vais la regarder un petit peu, m'assurer que les roulettes sont en bon état, pour que quand tout ça va recommencer un petit peu normal, notre vie normale à nous là, ben que ça puisse être fonctionnel, Paul.
Et je me posais la question, les joueurs du Canadien sont partis avec combien de valises?
Ah, ça c'est une bonne question.
La question a été posée hier à Shea Weber. Et vous savez que c'est très pertinent de la soulever, la question, parce que vous savez que les finalistes de la Coupe Stanley seront dans la bulle pendant deux mois. Mm-hmm. Deux mois sans avoir aucune permission de sortir de là, je le rappelle, là, de ce qui a été dessiné comme périmètre, autant à Toronto qu'à Edmonton. Alors, Weber a dit, ça va être le service de nettoyeur. Alors, quand on a structuré tout ça, là, ben, on s'est assuré dans les deux villes qu'on aurait des entreprises là, qui pourraient en priorité s'occuper des vêtements des joueurs et des entraîneurs. Tu sais, parce que l'entraîneur qui va se rendre en finale de la Coupe Stanley, là, le complet qu'il va porter derrière le banc, il risque de l'avoir porté une coupe de fois.
Oui, pour messieurs, vous le savez, et Thérèse le sait aussi, il y a des entraîneurs qui sont plus coquets que d'autres.
Ah ben oui!
Oui, hein? Ça c'est sûr.
Et il y en a qui ont moins de goût. Il ne s'agit pas de faire des noms, mais dans l'histoire de la Ligue nationale, on a eu des gens très bien habillés.
Oui.
Comme par exemple, je vais en donner un nom.
Oui.
Un gars comme Alain Vigneault, quelqu'un qui est toujours tiré à quatre épingles.
Oui, puis c'est savez-vous quoi? C'est important d'être bien paraître, mais c'est surtout important d'être assez sobre. Parce que on se souvient, il y a de ça quelques années quand même, mais on se souvient du veston jaune que Michel Therrien avait eu la très bonne idée de porter derrière le banc pour un match de série. D'ailleurs, match de série qu'il avait perdu et ensuite, il nous a raconté qu'il avait mis en pièces le fameux veston jaune. il y avait un coach du Lightning de Tampa Bay dans les premières années du Lightning, Steve Ludzig. Oui. Ludzig avait une façon assez particulière de s'habiller et d'ailleurs même ses patrons ont fini par lui dire, écoute, c'est parfait chez vous là, puis c'est parfait dans tes réunions de famille de porter ce que tu portes là, mais derrière le banc là, tu serais mieux d'y aller plus sobrement.
Alors parmi les pires de l'histoire, on va nommer des noms ce matin. J'en ai un qui me vient tout de suite à l'esprit. Ce gars-là était l'objet de tous les colibets. C'était Butch Goring.
Oui.
Butch Goring, et qui avait de l'eau dans sa cave. Vous connaissez l'expression?
Oui.
Il portait ses pantalons trop courts.
Puis Butch est analyste maintenant à la télé des Islanders. Et puis, Paul, il n'y a pas un meilleur look comme analyste que comme entraîneur. Et il y a Robbie Fedorek qui avait voulu partir une nouvelle mode vestimentaire. Paul, tu t'en souviens probablement.
Ben oui.
À la fin des années 80, début 90, là, le col roulé et la petite laine. Puis finalement, la mode a pas levé. Il a été tout seul à porter ça.
John Tortorella aussi, c'est pas très extravagant, mais quand même, le veston avec le petit chandail en dessous.
Il y a du style.
Mais moi, je comprends Tortorella, puis il l'a expliqué pourquoi il portait le petit chandail en dessous, parce que je peux vous confirmer que dans plusieurs... dans plusieurs arénas, je le porte, ce petit chandail-là, parce que il y a des arénas qui sont de vrais frigos.
Alors,
gèle là-dedans.
Il y en a un, entre autres. Sunrise, en Floride, c'est un frigidaire.
L'aréna des Hurricanes, Paul. L'aréna des Hurricanes, c'est vraiment un frigo. Il y a aussi le Staples Center à Los Angeles, parce que à Los Angeles, il y a tellement d'activités sur la glace là que, comme on dit, je vais utiliser le mot bien québécois, l'expression bien québécoise, ils sont obligés de crinquer l'air climatisé au maximum pour essayer de garder une glace.
Ben oui.
Un temps soit peu bonne, puis je fais une parenthèse, hein. Vous savez que dans les îles bulles, là, ça va être un facteur. Ça va être un facteur qui va influencer même les stratégies, parce que à Toronto puis à Edmonton, même si Edmonton, l'édifice est flambant neuf, il reste que des matchs à 1 heure, des matchs à 4 heures, puis des matchs à 8 heures le soir, 3 matchs par jour. Écoutez, vraiment, là, les glaces vont en manger un coup.
Et
soyez-en sûrs que ça va influencer un peu les stratégies, notamment en avantage numérique.
Mais dans le temps, Danny Dubé se joint à nous, parmi les gens bien vêtus.
Parlant de cartes de mode.
Comme Alain Crête, hein, Yannick? Comme Alain Crête.
Vous entendez parler de Futurec, oubliez pas ses espadrilles. Parce que lui, il portait les espadrilles en plus du col roulé.
Hey, Danny, je vais aller plus loin encore parce que Martin nous a dit Futurec a essayé quelque chose. Moi, je suis plus vieux que vous autres. Je me rappelle de Jean-Guy Talbot. Jean-Guy Talbot a été entraîneur des Rangers de New York. Dans les années 70, il n'a pas été longtemps, par exemple, entraîneur-chef, et il était en survêtement pour montrer qu'il était one of the boys, tu sais, avec les gars.
Ouais.
Ça n'a pas duré longtemps, Danny.
Non, c'est sûr.
Ça va être intéressant de voir, parce que là, il y a Joël Bouchard qui vient de monter chez les professionnels, puis on se demandait tous s'il garderait son casque protecteur pour diriger les entraînements chez les pros, et Joël a gardé le même casque rouge. Je sais pas si quand Joël va travailler dans la Ligue nationale à un moment donné, un jour, un de ces jours, il va peut-être certainement avoir la chance de travailler dans la Ligue nationale. Je sais pas s'il va porter son casque rouge pendant les entraînements.
Bonne question. Danny, c'est la première fois. D'abord, on est content de te parler ce matin. Retour au travail, as-tu hâte?
Ah ben oui, absolument. Écoutez, déjà là, juste pour... On a eu une période de préparation, Martin et moi, juste pour trouver nos repères. Quelques entraînements ensemble, à regarder tout ça. Et je dois vous dire que Martin a déjà failli à ses responsabilités.
Comment ça?
Ben, parce qu'on a, une espèce de règle non écrite qui dit que s'il y en a un qui paye le café, la fois d'après, c'est l'autre.
Oui.
Et la fois d'après, il a manqué son coup.
Oh!
Alors, déjà, là, publiquement, je tiens à le mentionner, Martin va avoir besoin de monter son jeu d'un cran.
C'est pas à ton honneur.
Non, effectivement. Je l'avoue candidement, Paul, j'ai levé la tête.
Ah, et c'est dangereux, surtout en zone neutre.
Oui. En camp d'entraînement, disons-le comme ça.
Oui, ben merci Yannick, merci.
Mais bon. Danny...
Non, très, très sérieusement.
Oui, sérieusement, tu t'attends à quoi? D'abord, on va avoir une première impression, là, mardi soir.
Oui. Ben, je rejoins Martin sur toutes les conditions, la glace, l'effet surprise. Moi, je pense qu'il va avoir, contrairement à ce qu'on peut voir habituellement, il va avoir beaucoup moins de stratégie. Parce que les séries, cette série-là va être courte. Et donc, on va mettre le paquet pour rendre la situation inconfortable pour la meilleure des deux équipes. Je pense que ça, c'est très, très important de comprendre ce que je veux dire quand on parle de rendre ça inconfortable. C'est que tu peux pas être trop stratégique contre les Penguins de Pittsburgh, ils sont meilleurs. Alors, ce que tu vas essayer de faire, c'est vraiment d'être omniprésent à proximité de la rondelle, les empêcher de faire ce qu'ils aiment faire, c'est-à-dire contrôler le jeu. Et de les forcer dans leurs décisions, les amener à prendre des décisions rapidement, trop rapidement peut-être. Et soyons honnêtes, à ce temps-ci de l'année habituellement, les joueurs sont en période de récupération. Donc, juste le talent ne suffira pas. Il va falloir que mentalement, ces gars-là se placent dans un état d'esprit où ils sont prêts à souffrir, etc. Et loin de moi l'idée de remettre en question... cette habileté du côté des Penguins de Pittsburgh qui ont un passé gagnant. Mais je pense que c'est ce que le Canadien va tenter de faire.
Et ça rejoint un peu ce que Philippe Danault nous a dit cette semaine quand il a dit là, dans le dernier droit du camp d'entraînement que l'équipe qui était pour gagner la coupe, là, ce serait probablement vraiment une épreuve mentale plus que physique. Puis je pense qu'il a raison parce que autant sur la glace, comme Danny le dit, il va falloir être très direct, très concentré rapidement, mais aussi là, ce avec quoi vont dealer, excusez l'expression, les joueurs autour de la glace. Puis là, c'est pas de les prendre en pitié, mais c'est juste un constat, un état de fait. Les joueurs vont être confinés, ils vont être constamment les uns avec les autres. Tu sais, sur la route, de temps en temps, quand l'équipe passe 6-7 jours sur la route, là, t'en as des gars, ça part, ça va déjeuner tout seul le matin. Le gars va avoir la paix avec son journal, avec son téléphone pour pouvoir parler à la conjointe ou aux enfants. Mais là, ils vont être constamment en groupe. Les moments de solitude, ça va être la chambre d'hôtel cloîtrée, la porte fermée. Puis moi, je pense que les équipes qui vont faire un bout de chemin dans ces séries-là, ça va finir par peser lourd mentalement sur les joueurs.
Ça, c'est très intéressant.
Mais est-ce qu'ils vont respecter ça vraiment?
Ben, c'est ça la question.
Ils n'ont pas le choix.
Ah,
pas
le choix. Choix, Thérèse.
OK, ouais, non.
Oui, ils vont respecter ça comme la loi, là.
Oui, mais il y aura des amendes. Il pourrait y avoir des amendes très sévères aux équipes dont les joueurs pourraient se faufiler entre les clôtures, parce que vraiment, là, c'est pas des faces, là. À Edmonton puis à Toronto, on a clôturé.
Oh, ouais. C'est pas des faces.
Danny, tu parlais de courte série. Est-ce que tu parlais de courte série dans le sens d'un 3 de 5 et non un 4 de 7 où le Canadien va gagner en 3?
Fais-moi pas dire des choses comme ça. Non, sérieusement, je pense que le fait que la série 3 de 5, le premier match, a beaucoup plus d'importance qu'une série 4 de 7. Parce que déjà, là, tu te retrouves dans une situation, dans un 3-5, si tu perds le premier match, whoop, tout de suite, le sentiment d'urgence s'installe.
Déjà fragilisé. Là.
Ouais. Ouais, oubliez, oubliez pas une chose, on parlait de tenue vestimentaire. Ce qui avait fait le plus jaser dans une période courte mais glorieuse du Canadien, c'est la cravate de Carbeau.
Oui.
La cravate de Carbeau a coïncidé avec
deux...
Ah, mais est-elle... ce que je veux dire, Martin,
elle était différente.
Elle était différente, okay. Exactement.
Mais il y a quand même quelqu'un qui a payé 175 000 $ pour l'avoir.
Oui, mais c'est ça, et pour une bonne cause. Ce que je veux dire, messieurs...
Pour la Fondation des Canadiens pour l'enfance, au moins.
Rappelez-vous qu'il y avait eu deux miracles avec la cravate à Carbeau. Les Pingouins et les Capitals.
Oui. Oui. Alors, oui, mais là, les miracles, la cour des miracles est assez pleine, mon cher Paul.
Oui.
Pas sûr.
Moi, je veux juste... est-ce que je peux revenir juste avec Danny? Parce que hier, Claude Julien a été agacé quand on lui a dit, comme ça, Max Domi se retrouve sur un quatrième trio.
Ouais.
Là, le coach Danny Dubé, y a-tu des numéros au trio ou non? Parce que Tatar, Gallagher puis Dano, on s'entend que c'est le trio numéro un ou... Oui?
Allô? Oui, ben c'est parce que... Au moment où on commence à donner un numéro sur un trio, ça veut dire que c'est vraiment le trio le plus, on dit, OK, c'est le trio le plus important. Donc, plus important, charge de responsabilité, offensive, défensive. Évidemment, il n'y a pas photo, là. Philippe Dano, c'est ce qu'il fait, Gallagher aussi, Tatar. Mais quand on descend dans la hiérarchie, on se rend compte aussi que il y a des joueurs sur le deuxième ou le troisième ou même le quatrième trio, lorsqu'on fait cette nomenclature, il y a quand même des rôles très importants. Et aujourd'hui, on n'a plus de quatrième trio dans l'ordre des choses, là, un vrai quatrième trio qui est unidimensionnel défensif. On essaye le plus possible d'avoir une répartition de la force de frappe, encore plus contre les Pingouins, parce que moi, je pense que Claude Julien, dans sa tête, regarde la situation et se dit, si je suis capable d'avoir du bon hockey sur ma troisième et ma quatrième ligne,
parce qu'il y a pas le disons ça comme ça. Surtout, là.
Pardon? Ah, ben oui. Et il n'y aura pas de dernier changement, oui, c'est ça.
Non, c'est ça. Puis sur son troisième et quatrième trio, ben, ça va vraiment, c'est là où il y a une chance d'avoir un peu plus d'équilibre dans la confrontation. Surtout sur le quatrième trio. Si on regarde le quatrième trio des Pingouins et celui du Canadien, avec Domi au centre, ça amène une dimension qui est quand même pas négligeable, qui peut un peu déstabiliser l'adversaire, qui va avoir des décisions à prendre dans son choix de confrontation, là, dans ce qu'on appelle les match-up.
Dans les réponses que Claude Julien a données, tu sais, parce que Claude Julien donne des réponses en anglais puis en français, puis des fois, ben il finit par se trahir un peu. Puis il a fini par échapper, là. Il a fini par dire hier, là, vous pensez toujours bien pas que, en fait, ce qu'il voulait dire, c'est que vous pensez toujours bien pas que Domi est un moins bon joueur de centre actuellement que Jesperi Kotkaniemi. Il a presque dit ça, là. Mm. Alors, tu sais, moi, je pense aussi, Yannick, Paul, Thérèse, je pense que je vais vraiment faire attention aux mots que j'utilise, mais j'ai envie d'utiliser le mot politique. Il y a peut-être un peu de politique là-dedans. Parce que, au travers de ses réponses et de ses explications sur ses compositions de trio, il a continué à dire, il dit, on a des jeunes, puis on doit leur donner du temps de jeu pour les développer.
Alors, messieurs, il nous reste à peine 2 minutes. On n'a même pas mentionné le nom de Dieu, c'est-à-dire Carey Price. Et de Dieu, il y a le demi-dieu, Shea Weber. Rapidement, Martin et Danny, quelle va être l'importance de ces deux superstars du Canadien?
Ben, ceux qui vont dicter un peu l'allure de la série au départ, parce que c'est tes joueurs clés, ce sont eux qui inspirent leurs coéquipiers. Mais moi, je pense vraiment que ça va être, puis Martin en a souvent parlé dans ses reportages, la ligne de centre qui va déterminer si on est capable de tenir tête à Crosby et Malkin. Ben là, il pourrait y avoir une série. Sinon, écoute, même si Price est à la hauteur, il n'y aura pas de série, là. Mm.
Moi, je pense, concernant Price et Weber, qui sont les deux meilleurs piliers de Claude Julien, si dès le premier match, peut-être même dès la première période du premier match, les joueurs s'égarent défensivement et manquent de discipline, le rappel à l'ordre va se faire avec le capitaine puis le gardien de but.
Et je tiens à vous dire, Danny, Martin, Yannick, que Mme Parisien, ici, prédit que Nick Suzuki va nous en mettre plein la vue. Danny.
Oui, ben moi, écoute, Thérèse, t'as tout à fait raison. Je suis très content que tu parles du jeune Suzuki parce que c'est vraiment ce joueur-là qui va permettre aux Canadiens d'avoir, pas seulement dans cette série, mais dans les années futures, une ligne de centre qui peut commencer à rivaliser avec les bonnes équipes dans la Ligue nationale à cause de sa grande maturité.
Je suis tellement content que tu dis ça, Danny, parce que bon, je lisais sur Twitter cette semaine, Chantal Maccabée est allée au match simulé pour le Canadien, mais maintenant elle a écrit Nick Suzuki est toujours aussi agréable à voir jouer. Puis là, j'étais jalouse.
Bon,
c'est un bon joueur, il est bon, il est jeune. Il me semble que c'est l'avenir du hockey chez nous. En tout cas, il me semble que ça va nous faire du bien.
Il nous reste...
C'est probablement le meilleur jeune talent que l'organisation a actuellement.
OK. Alors, je veux juste une opinion à froid. Tout à coup, messieurs, vous décrivez une finale Canadien-Blackhawks pour la Coupe. Allez-vous m'inviter?
Tout le monde rit.
C'est sûr.
Absolument.
Paul. C'est sûr.
Ça deviendra un incontournable.
Parce que, savez-vous ce qu'ils m'ont dit, Yannick? Thérèse m'a dit, si jamais Canadien et Blackhawks s'affrontent en finale, t'es obligé de quitter la ville. Je vais être obligé de m'expatrier.
C'est sûr.
Pendant 2 semaines, peut-être.
T'es mieux de porter un masque full face, comme on dit.
Il n'aura pas le choix.
Paul, tu peux quitter discrètement en motorisé et personne ne va te remarquer.
Ben exactement, je vais franchir la frontière. Mais remarquez, messieurs, que j'ai autant de chances de gagner le Lotomax de mardi que de voir le Canadien et les Blackhawks en finale, Danny.
Oui, absolument. Tu as raison. Et même avec l'oratoire Saint-Joseph, les prières et tout, ça va être difficile.
Et j'ai bien hâte de voir, pour compléter sur ce qu'on a commencé comme conversation, de voir le premier complet de Claude Julien pour le premier match face aux Pingouins.
Oui, mais ça va être intéressant de voir s'il va avoir le même complet pour peut-être le 5e match.
Ça, c'est bien. Merci. Messieurs, on est contents de vous retrouver. Ça commence mardi soir avec le match préparatoire.
Oui.
Puis on va vous suivre dans une période qui n'est pas facile, mais vous allez nous changer les idées.
Certainement, puis ça nous fera plaisir d'avoir les auditeurs au rendez-vous.
Au revoir.
Merci, bonne journée.
Alors, Yannick et Thérèse, l'agent de Laurent Duvernay-Tardif, Sacha, nous parle au retour.